À Rencontre spirituelle aujourd'hui, en ce 15 octobre, c'est évidemment une des grandes fêtes de l'année, à mon avis. C'est la fête de Sainte-Thérèse d'Avila qui est vraiment, au dire de grande partie des critiques spirituelles de l'Église, la plus grande sainte, peut-être évidemment après la Sainte Vierge, dans l'histoire de l'Église. Du moins, c'est celle qui nous a le mieux révélé le phénomène mystique de l'union de l'âme à Dieu. Cette joie profonde qui nous est accompagnée de souffrance, évidemment, mais cette joie profonde des grands mystiques. C'est une carmélite qui est morte en 1582 en Espagne. Et c'est une mystique réformatrice, une réformatrice. Elle est docteur de l'Église. Nous allons donc avoir dans 4 jours une deuxième carmélite docteur de l'Église. L'autre est laïque du tiers-ordre dominicain, Sainte Catherine de Sienne. C'est donc Thérèse d'Avila, un écrivain spirituel absolument exceptionnel. C'est superbe à lire. Et je me souviens enfant qu'on lisait dans nos missels le jour de cette fête sa vie qui était toujours un peu plus longue que celle des autres au début de la messe. Et on disait en particulier, elle atteignit dans l'oraison le plus haut degré de la vie mystique, et elle y a puisé de si grandes lumières sur les choses divines, que ses ouvrages lui valurent d'être comparés par les papes eux-mêmes à ceux d'un docteur de l'Église. Elle a été nommée docteur de l'Église récemment. L'oraison la mieux faite et la plus agréable à Dieu, écrivait-elle, et celle qui laisse après elle de meilleurs effets, s'annonçant par les œuvres et non par ses goûts qui n'aboutissent qu'à notre propre satisfaction. C'est l'essentiel au fond de cette vie de raison. Elle résume là comment ça se fait. C'était une jeune Espagnole, donc, qui est née d'un père d'origine juive, hein? Saviez-vous ça? Oui, d'un père d'origine juive et d'une mère d'origine noble. Son vrai nom, c'est Thérèse de Ahumada de Cepeda. Ou de Ahumada, I, vous savez le Y, et Cepeda. Elle est née à Avila, donc, au cœur de la vieille Castille. Elle est née un 28 mars, ça peut intéresser certaines personnes, en 1515, aux premières heures du jour. Son père, Don Alonso Sanchez de Cepeda, est un homme pieux, patient, demeure sévère, un homme charitable. Il administre lui-même ses domaines. Il veut que ses enfants sachent lire, de bonne heure. Puis, il a épousé en seconde noce. C'est en seconde noce qu'il a épousé cette noble, la mère de Thérèse, Doña Beatrix de Ahumada. Ils ont eu 9 enfants. Thérèse est la troisième. Sa mère, c'est une femme douce et pleine de tendresse. Puis il y a une ambiance familiale très chrétienne à la maison. Et vers l'âge de 7 ans, elle lit la vie des saints. Est-ce qu'on fait lire encore aujourd'hui la vie des saints à nos enfants de 7 ans? C'est ça peut-être un des drames. Mais j'ai entendu dire hier par un professeur que mon émission d'hier, qui était pourtant si difficile sur la foi chrétienne et ce que Dieu veut de nous, qui veut l'amour, eh bien des enfants de 12, 13 ans dans sa classe ont tout écouté ça et ont trouvé ça merveilleux, ont été ravis. Je suis stupéfait que des enfants de 12 ans aujourd'hui au Québec sont plus avertis peut-être qu'on l'était nous. Ils comprennent mieux. Alors elle lit ça en compagnie de son frère préféré qui s'appelle Rodrigo. Il a 4 ans de plus qu'elle. Il a donc 11 ans puis elle découvre le monde spirituel. Alors les récits qui parle de martyrs, ça les enthousiasme tous les deux. Les deux enfants s'exaltent, évidemment. Et là, la mort leur apparaît comme un bien désirable, parce que là, ils vont voir Dieu. Une étrange conception de la mort, hein? C'est pas si bête, au fond. C'est un grand désir qui peut nous habiter. Mais ça doit pas nous amener jusqu'à chercher volontairement le martyr. Ils complotent de se rendre auprès des morts pour se faire décapiter. Les morts, ce sont les musulmans, mais les musulmans sont en grande partie disparus depuis. Ils étaient là depuis le 8e siècle, les musulmans arabes. surtout à Cordoue, en Espagne, et puis vers 1492, la plus grande partie sont partis. Hein. Et là, nous sommes vers 1522 à peu près. Alors, ils sont partis chez les morts pour se faire décapiter, puis acquérir ainsi la gloire du martyr. Puis les voilà donc partis sur la route, puis tout à coup, quelqu'un leur barre la route, c'est leur oncle paternel, ils sont obligés de revenir à la maison. Et puis, Rodrigo lui dit à leur père que c'est la Niña qui m'a entraîné. Mais Thérèse, elle, dit « Je veux voir Dieu ». Tu sais, « Je veux voir Dieu », c'est le titre d'un très beau livre de spiritualité carmélitaine. Et elle ajoute que pour le voir, il faut mourir. Alors après cet échec, eh bien, elle décide de se faire ermite, comme une enfant. C'est très amusant. Alors elle joue à l'ermite, elle joue à la religieuse, avec ses cousines et ses amis. Mais depuis son escapade, là, la mère s'inquiète un peu sur cet enfant-là, qui est encore plus compliqué, plus dissipé, en somme, que tous ses frères réunis. Alors, les soirs d'hiver, elle la prend part. Elle parle avec elle. Elle parle de l'amour de Dieu, puis de la Vierge Marie, mais aussi de ses héros préférés, qui sont les beaux gars des romans de chevalerie, que sa mère lit en cachette de son mari. Alors Thérèse, elle aussi, se met à lire ces choses-là, ce qu'on appelle la littérature chevaleresque. C'est avec passion qu'elle fait ça. Hein. En 1528, donc, elle a, bon, 13 ans à peu près, Doña Beatrix meurt après la naissance de sa petite Juana. Et cette pauvre enfant de 13 ans, notre Thérèse, elle se sent bien seule et fragile, et après la mort de sa mère, ben c'est une adolescente, donc, qui vit auprès d'un père un peu morose, évidemment, d'avoir perdu sa femme, sa deuxième femme, mère de ses 9 enfants. Elle a une grande sœur qui se marie bientôt, de nombreux frères et cousins qui l'aiment beaucoup aussi, mais ses romans de chevalerie la passionnent quand même. Et ça, ça éveille en elle le désir de plaire. Alors, Thérèse aime bien s'habiller avec soin, puis se coiffer avec soin. Et ses cousins l'admirent. Elle prend un vif plaisir, d'ailleurs, aux compliments qu'on lui fait. Et l'un d'eux est particulièrement sensible à son charme, d'ailleurs. Oui, elle est courtisée. Et là, la gloire du martyr lui a échappé, d'accord. Mais Thérèse s'oriente dans une autre voie. Et toujours avec Rodrigo, elle se met à écrire un roman. Le Chevalier d'Avila, dont le héros est célèbre dans les annales de la ville. Puis là, elle recherche maintenant la gloire littéraire. L'œuvre terminée, ben, les parents et les amis crient merveille, et voilà Thérèse qui est lancée dans la vie mondaine. Et c'est une belle jeune fille, mais qui est présente à de nombreuses fêtes, et on aime bien la voir. Et lorsqu'elle traverse sa villa, elle sait qu'on l'admire, elle est très fière. Elle écrit d'ailleurs, beaucoup plus tard, dans un de ses livres, « On peut mourir, oui, être vaincu, jamais ». Elle est décidée, hein? C'est une décidée. Thérèse Avila, là, prend un vif plaisir aux compliments puis aux réjouissances, et la tête lui tourne un peu. Sa piété se refroidit. Son père, Don Alonso, décide de la mettre finalement chez les Augustines, en pension. Et là, sous l'influence d'une bonne religieuse qui parle bien de Dieu, Thérèse reprend goût à la prière. Alors, elle songe même à se faire religieuse chez les Augustines. Mais elle change rapidement d'idée. Thérèse est alors en proie à toutes sortes de luttes intérieures. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle n'est pas très religieuse, au fond. Au bout d'un an et demi, elle tombe malade et elle doit revenir dans sa famille. Alors elle demande à son père d'aller se reposer chez sa sœur, qui est mariée, qui vit à la campagne dans les environs d'Avila. En route, elle s'arrête chez son oncle, Don Pedro Sanchez de Cepeda, un chrétien fervent dont la foi l'impressionne. C'est un homme remarquable. Don Pedro, il demande à Thérèse de lui faire la lecture, puis il choisit, c'est pas bête, dans sa bibliothèque, les lettres de Saint Jérôme. Vous direz, mais c'est ce séjour chez son oncle, ce laïc très croyant, qui va marquer profondément la jeune fille. Elle va écrire plus tard les paroles de Dieu, celles que je lisais et que j'entendais, ont agi si fortement sur mon cœur que j'ai compris la vérité pressentie lorsque j'étais enfant, à savoir que tout n'est rien. Tout n'est rien. Ce qui veut dire que Dieu est tout. Dieu est tout. Si Dieu n'est pas là, tout n'est rien, tout n'est rien, tout n'est rien. Mais si Dieu est là, tout prend un reflet différent. Et elle n'est pas séduite par la perspective de la vie religieuse. Hein? Elle pense que c'est le chemin le meilleur, le plus sûr, c'est sûr. Mais finalement, l'une de ses amies vient de rentrer au monastère des Carmélites de l'Incarnation, à Avila. C'est un grand monastère, pas un petit carmel comme aujourd'hui. Elle hésite un peu, puis finalement elle dit « J'ai décidé de me contraindre à entrer au couvent. » C'est une espèce de mariage de raison avec le Christ, c'est pas un mariage d'amour. Hein? Puisque c'est la meilleure vie, bon, allons-y, ça finit là. Alors elle informe son père, il ne veut pas du tout, consentir à ça, il trouve que ça n'a pas de sens, mais elle n'écoute pas, elle n'est pas très obéissante, et le 28 octobre 1536, elle a, quoi, 21 ans, c'est à l'aube, là, avec la complicité de son frère Antonio, elle quitte la maison paternelle pour le monastère de l'Incarnation. Ce monastère venait d'être construit, c'est une bâtisse assez simple, c'est rural, qui avait été inaugurée le jour de son baptême à elle, le 4 avril 1515. Et puis, imaginez, il y a 180 carmélites là-dedans. C'est du monde, hein? Et ce sont des carmélites qui ont adopté la réforme dite mitigée. Donc, la plupart sont de familles nobles, ça parle beaucoup, elles portent de jolis costumes, même un peu de dentelle. Thérèse retrouve parmi elles des parentes et des amis qui l'accueillent avec joie, puis un brin de curiosité. Qu'est-ce qu'elle va devenir dans ce monastère? Est-ce qu'elle va marcher vers la sainteté? Elle écrit dans sa autobiographie « Je ne crois pas que je souffrirai davantage en mourant que lorsque je suis sorti de la maison de mon père. On eût dit que chacun de mes os se séparait des autres et je n'éprouvais pas cet amour de Dieu qui anéantit l'amour pour le père et les parents. Je n'agissais qu'à force de me dominer. Si le Seigneur ne m'était venu en aide, mes considérations n'eussent point suffi à me faire aller de l'avant. Il me donna le courage de me vaincre. Alors, à vrai dire, Thérèse semble davantage faite, on pourrait dire, pour la réussite dans le monde, hein, que pour la sainteté. Pourtant, elle va devenir la plus grande sainte, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors, il n'y a pas de découragement à avoir, là, les jeunes qui m'écoutaient, là. Vous pouvez faire comme elle. Alors, elle est, de son propre avis, d'ailleurs, remplie de défauts, de contradictions. Elle est à la fois orgueilleuse et futile. Elle sait qu'elle est dominatrice, influençable aussi, portée à la dissimulation. Mais elle est farouchement opposée au mensonge. Alors, elle a un amour-propre énorme aussi, et susceptible. Et si Thérèse doit devenir une sainte, ça va être long pour se convertir, pour changer. Oh, ce sera difficile, mais elle est prête à y mettre le prix. Elle a adopté la devise de la ville d'Avila, plutôt se briser que plier, plutôt mourir que renoncer. Avec sa fougue habituelle, cette jeune novice, Thérèse d'Avila, se lance dans la pratique des vertus et des observances monastiques. Il y a toutes sortes de règles dans un monastère, hein, ne pas regarder ici, ne pas faire sa marche de telle façon, etc., s'asseoir de telle façon. Tout ça discipline le corps et finalement discipline l'âme. Mais elle tombe gravement malade et Thérèse fait finalement, heureusement, sa profession religieuse le 3 novembre 1537 et elle a 22 ans. Et comme sa santé est de plus en plus inquiétante, son père fait venir auprès d'elle les meilleurs médecins pour tenter de la guérir, mais en vain. Alors il décide de la faire soigner par une guérisseuse de renom qui habite dans les environs d'Avila. Et pour se rendre chez la guérisseuse, Thérèse passe de nouveau chez son oncle, le fameux Don Pedro, cet homme qui l'a influencé par la lecture des lettres de Saint Jérôme. Et elle lui confie ses difficultés, ses espoirs, ses déceptions. Et son oncle l'écoute et lui conseille quoi de faire à raison. Et il lui prête un livre dans ce sens-là. Vous pouvez faire ça avec des gens autour de vous. Il y a de très beaux livres sur la façon de faire d'oraison avec Thérèse d'Avila. Alors, il lui prête le troisième abécédaire du père François de Osuna. Et Thérèse lit et relit le volume. Ça lui apprend l'art de se recueillir et de laisser son cœur s'ouvrir librement au Seigneur qui est présent en elle. Et là, elle est fascinée, hein? Elle a déjà fait ses vœux, imaginez. Elle est fascinée tout à coup, après avoir fait ses vœux, par les horizons nouveaux qu'elle découvre. Puis elle est arrivée chez la guérisseuse, là, et elle s'applique à vivre continuellement en présence du Christ. Nous verrons tout à l'heure la suite de cette vie extraordinaire de Thérèse d'Avila, grande sainte, docteur de l'Église. Nous revenons donc à Thérèse d'Avila. Alors, elle est allée voir une guérisseuse. C'est pas la meilleure chose à faire, c'est son père qui l'envoie là. Alors au début, le traitement de la guérisseuse, pas trop pénible, mais bientôt à force de médecine de guérisseuse, une purge par jour, Là, la fièvre ne la quitte plus. Elle souffre beaucoup. Alors, son père amène sa fille presque mourante à la maison. Puis à nouveau, là, les médecins de l'époque, évidemment. On voit ça dans Molière et dans d'autres pièces de théâtre. Les médecins défilent au chevet de la malade. Ils la disent condamnée. Puis soudain, elle se sent mieux. Alors, elle supplie son père de la reconduire au monastère. Mais elle va rester là 3 ans paralysée dans le monastère. Mais elle fait preuve d'un grand courage. Ça la purifie d'elle-même. La maladie peut nous aider à devenir des saints. Oui, ça peut être curieux, mais c'est comme ça. La souffrance, la croix, nous mène à la résurrection. Ça dépend comment on le prend. Hein? Alors, elle fait preuve d'un grand courage. C'est ça, le secret. Et son entourage l'admire. Et un jour, comme elle veut en finir avec la maladie, parce qu'elle veut servir Dieu plus efficacement, qu'est-ce qu'elle fait? Ça va plaire à bien du monde ici à Montréal et dans les environs. Elle s'adresse à Saint-Joseph. Vous savez qu'elle avait une grande dévotion à Saint-Joseph, hein? Le père adoptif de Jésus, quoi. Alors elle guérit, et tout le monde crie au miracle. Et aujourd'hui, on s'interrogerait sur les manifestations de cette espèce de maladie absolument curieuse, plutôt psychosomatique, hein? En tout cas, peu importe. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en dépit de tout, Dieu est fidèle à l'appel qu'il a adressé à Thérèse. Et puis, il fait son chemin en elle, Dieu, à travers toutes les péripéties de sa vie. Alors, au début, Thérèse se contente de répondre aux questions qu'on lui pose. Elle aime pas s'attirer l'attention à ce sujet. Elle n'a qu'une hâte, c'est de retrouver la solitude pour faire oraison qu'elle a apprise auprès de son oncle. Car son mariage d'oraison avec le Christ est devenu un mariage d'amour. Et elle aime s'entretenir avec Jésus. Mais est-ce qu'elle peut laisser partir ceux qui lui rendent visite sans leur adresser au moins quelques paroles de réconfort, sans s'intéresser aux nouvelles qu'ils lui apportent du dehors? C'est pas facile, ça, pour une cloîtrée. Thérèse a alors 26 ans, puis elle est plus belle que jamais. On admire cette jeune religieuse sous son voile. Son jugement, son ouverture d'esprit captive beaucoup les visiteurs, hein, qu'elle s'excuse en riant de pas être vraiment savante. C'est vrai d'ailleurs. Thérèse n'a étudié ni le grec ni le latin, mais elle a beaucoup lu. Elle a beaucoup médité sérieusement. Puis l'épreuve, comme je vous ai dit, l'a mûrie. Hein. Avec elle, alors, beaucoup de gens parlent de l'oraison, de la nouvelle compagnie fondée par Ignace de Loyola, la compagnie de Jésus, les Jésuites, puis aussi du nouveau monde qui a été découvert. Tous ses frères y sont partis d'ailleurs pour faire fortune et conquérir assez d'argent pour devenir respectable, comme on dit, parce que leur origine juive les gêne en Espagne dans leur ascension sociale. Il y a une persécution encore contre les Juifs, même s'ils sont catholiques. Tout passionne Thérèse, qui passionne, elle, tout le monde. Et à cette époque, le monastère de l'Incarnation est très ouvert sur le monde extérieur. Imaginez que quelques religieuses mènent une vie très priante, d'accord, et recueillie, mais d'autres beaucoup moins, et la plupart sont entrées au couvent parce qu'elles n'ont pas trouvé de mari. Elles se sont organisées, donc, une espèce d'existence assez agréable dans ce grand couvent, selon leur goût, puis selon leur fortune, leur richesse, puis selon aussi leur rang. Il y a beaucoup de nobles là-dedans. Et Thérèse sent le danger, elle le frôle. Mais heureusement, ça lui échappe. Mais ne le fuit pas. Elle ne le fuit pas. À la fin de 1543, le père de Thérèse, Don Alonso, que sa fille a initié à l'oraison, oui, elle a initié son père à l'oraison. Ça se fait. Il tombe gravement malade et Thérèse assiste à ses derniers moments, puis elle rencontre à son chevet un dominicain, le père Vincent Baron, qui lui dit de reprendre l'oraison. Il dit rester fidèle en toutes circonstances. Rester fidèle à l'oraison en toutes circonstances, c'est très difficile. C'est ce que fera Thérèse, et pendant 10 ans, elle médite la vie et la passion du Christ. Oh, ça lui en coûte certains jours. Elle guette la fin de l'heure avec impatience, comme si nous, là, quand on, vous savez, discrètement, on regarde notre montre et puis on se dit au fond de nous-mêmes, en toute honnêteté, si ça peut donc finir, c'est donc long, hein. Parce qu'on n'a rien. Notre cœur est comme vide. On est comme abandonné de Dieu. C'est triste, c'est très difficile. Et son cœur est encore tellement rempli de vanité, comme elle dit, qu'il lui est difficile de se recueillir. Et un jour de l'année 1553, Thérèse traverse l'oratoire, puis elle voit une statue qui représente le Christ couvert de plaies, comme on en voit en Espagne. Alors son cœur se brise. La douleur du Christ. Elle se précipite à genoux. Puis elle fond en larmes. Elle demande au Seigneur la force de ne plus jamais l'offenser. C'est ça le secret de la sainteté. Tellement aimer Jésus, tellement vouloir le consoler, tellement vouloir que Dieu s'empare de nous lui-même pour ne plus l'offenser. Il y a daté de ce jour, Thérèse change profondément. Elle évite le parloir du couvent. Elle redouble de constance puis de ferveur dans l'oraison. Elle se fait plus humble aussi et plus patiente. Puis au début de 1554, elle lit les confessions de Saint-Augustin. Intéressant à lire, ça c'est un très grand classique, les confessions de Saint-Augustin. Et le récit la bouleverse et la conversion de ce grand saint. Et c'est pour Thérèse un nouveau choc, qui est violent. Ça la délivre d'elle-même et désormais Dieu va vivre en elle. Et le Seigneur prend possession de sa vie, la comble de grâce et de force. Ah, elle a continuellement des visions puis des extases. Faut pas chercher ça, ça ne nous sera jamais donné. Hein. C'est des saints, ça, spéciaux. Hein. Et ces extases, ces visions sont si fréquentes qu'elle s'inquiète d'ailleurs. Ses compagnes aussi. Sans compter les bonnes gens de la villa, tout le monde se pose la même question. Ces manifestations surnaturelles, est-ce que ça vient de Dieu ou du démon? Est-ce que Thérèse ne serait pas simplement une illuminée, une hérétique? Est-ce qu'elle ne serait pas le jouet d'illusions, de machinations diaboliques? Comme d'autres qui ont déjà passé avant elle, hein, sous le feu de l'Inquisition. Alors Thérèse, elle-même est troublée. Elle confie ses inquiétudes au père François de Borgia, Saint François de Borgia, au frère Pierre d'Alcantara, Saint Pierre d'Alcantara, deux saints, oui. Il y a un grand nombre de religieux très savants, des jésuites, des dominicains, des franciscains, et leurs avis sont contradictoires. Alors pour elle, il y a de quoi perdre la tête, mais Thérèse a les pieds sur la terre, elle a les pieds sur terre, et elle a une solide nature, un bon sens qu'on pourrait dire imperturbable, c'est une femme équilibrée, hein? Un balai à la main, elle chasse la poussière dans les moindres recoins, ou bien elle cueille des fleurs pour orner l'autel. Elle brûle d'agir d'ailleurs, de faire de grandes choses pour Dieu. Elle prouvera bientôt que la contemplation est le plus puissant levier de l'action, et pour se faire une idée plus précise de ce qui lui arrive, plusieurs de ses confesseurs demandent à Thérèse de mettre par écrit, heureusement, par écrit, ce qu'elle ressent durant ses expériences mystiques. Et après avoir lu avec soin toutes ces espèces de relations de sa vie personnelle, ils sont unanimes. Tout cela vient de Dieu, disent-ils. D'ailleurs, le comportement de Thérèse le confirme. Après des années de contradictions puis de suspicions, elle connaît enfin la paix. Et vers 1560, un sentiment nouveau se fait jour en Thérèse. La pitié de ceux qui souffrent, en France en particulier, où elle sait que les catholiques et ceux qu'on appelle les luthériens, c'est comme ça qu'elle nomme les protestants, s'entre-déchirent. Elle ne juge pas, mais ne condamne pas. Ce sont des terribles guerres de religion en France. Mais elle aime. Elle regrette de ne pas pouvoir, comme les compagnons d'Ignace de Loyola, les jésuites, porter l'amour là où le monde est en feu, comme elle dit. Et par ailleurs, elle sait par expérience la toute-puissance de la prière. Puis elle pense à l'époque où la règle primitive du Carmel faisait des monastères des hauts lieux d'oraison. Et ses réflexions, ça démange, ça harcèle Thérèse. C'est maintenant le sujet habituel de ses conversations. Et un jour, Thérèse s'entretient dans sa cellule avec ses cousines, puis des amis. Oui, dans sa cellule, c'est assez surprenant. Aujourd'hui, on n'irait pas dans une cellule de Carmélite. Et la jeune Marie de Ocampo, religieuse de l'Incarnation, qui s'écrie soudain, « Nous toutes qui sommes ici, allons-nous-en donc et organisons une vie solitaire à la façon des ermites du Mont Carmel. » Et l'idée est lancée, ça va faire son chemin et la réforme du Carmel va avoir lieu sous la conduite de Thérèse d'Avila. Rencontre spirituelle s'intéresse aux vies de saints, aux vies de gens remarquables qui ont donné un sens à leur vie, puis aussi à l'occasion, il y a des émissions spéciales. Aujourd'hui, c'est Sainte Thérèse d'Avila qui projette de réformer le Carmel en compagnie de quelques autres sœurs, dans son grand couvent immense, de près de 200 religieuses, le monastère de l'Incarnation à Avila. Et ce projet correspond aux préoccupations de l'époque, parce qu'un peu partout, on fonde des ordres nouveaux, on réforme les anciens, et puis Dieu, lui, demande à Thérèse de tout faire pour fonder ce nouveau monastère puis restaurer la règle primitive. Alors elle se met à l'œuvre, mais que de difficultés. Le projet est vanté, c'est-à-dire on en haut lieu, on se rend compte de ça. Ça soulève une tempête à Avila, et particulièrement d'ailleurs au couvent de l'Incarnation. Mais grâce à une amie de Thérèse qui est fortunée, on demande à Rome les autorisations nécessaires. Alors une maison est achetée. Elle est petite. Elle est transformée en un tout petit monastère. Alors on cloue, on scie, on suspend, on accroche, on essaie de se faire un monastère. Puis le 24 août 1562, c'est une grande date, une clochette fêlée annonce aux voisins du quartier Saint-Roch qu'une nouvelle chapelle est consacrée à Saint-Joseph et Doña Teresa de Ahumada, Sainte Thérèse d'Avila, y donne le nouvel habit, très pauvre, à 4 jeunes filles inconnues. Toutes orphelines. Oui, ça commence avec des orphelines. Et depuis longtemps, Thérèse attendait ce jour. Oh, son bonheur est si grand d'avoir accompli ce que le Seigneur lui a ordonné. Elle est transportée en grande oraison. Et la fondation du petit Carmel de Saint-Joseph agite à nouveau la ville. Les autorités civiles et religieuses s'en mêlent. On oblige Thérèse à réintégrer le couvent d'Incarnation. Le combat est rude. Ça va durer 6 mois. Et finalement, au printemps de 1563, Thérèse est autorisée à retrouver ses 4 compagnes restées à Saint-Joseph. Et sur le chemin, en passant devant la basilique de Saint-Vincent, elle descend dans la crypte et se déchausse devant la Vierge. Doña Teresa de Ahumada vient de mourir au monde. Thérèse de Jésus est née. C'est son nom, Thérèse d'Avila, Thérèse de Jésus. Alors Thérèse, qu'on appelle maintenant Mère Thérèse de Jésus, et qu'on nommera bientôt la Madre, puis la Santa Madre, consacre beaucoup de temps à ses filles, elle les forme à la vie contemplative et à l'ascèse, avec douceur et bon sens. Et Thérèse organise la vie quotidienne au couvent, en fonction évidemment des exigences de la règle primitive du Carmel. Quoi? La prière et le travail. Puis elle vit avec ses compagnes dans une extrême pauvreté, donnant l'exemple et filant elle-même la quenouille pour obtenir ce dont ils ont besoin pour la communauté. Puis, elle fait aussi la cuisine, imaginez, parce qu'elle est consciente que le Seigneur est présent même parmi les marmites, comme elle dit. Ça peut consoler les sœurs cuisinières, les frères cuisiniers. Mais la semaine où elle a la charge des repas, bien, elle est appréciée parce que elle sait bien faire la cuisine. Elle réussit très bien ce qu'elle fait. Et Thérèse, c'est une fine psychologue, et avec beaucoup de sagesse, elle ménage chaque jour à ses filles des moments de détente. Alors, il y a des récréations. Puis elle sait que ces moments sont importants pour la vie fraternelle. Il faut savoir se délasser. Il faut savoir, au besoin, comme parfois ma radio Ville-Marie, j'écoute un peu de jazz, je trouve ça très beau et ça me repose pendant un quart d'heure, une demi-heure, même une heure des fois, je vais jusqu'à une heure, ça m'arrive, ça peut vous surprendre. Mais il faut se délasser un peu, bien sûr, tous les beaux concerts à radio Ville-Marie, tellement de belles musiques. Et tandis là que les rouets ronronnent dans son petit couvent, bien, elle raconte des histoires pendant la récréation. Et certains jours, la joie s'exprime en toutes sortes de poésies, de chansons, de danses, des jeux de flûte, des tambourins même. Oui, les tambourins, c'est très populaire en Espagne. Hein? Puis, il faut tout cela dire à Thérèse pour rendre la vie supportable. Et ainsi se fixent peu à peu les observances qui seront désormais en usage dans tous les monastères de la Réforme. Elle écrit à un moment donné, d'ailleurs, on ne pose point de limite à Dieu. En un instant, il peut élever une âme à ce qu'il y a de plus sublime, et c'est son rêve. En 1567, le maître général de l'ordre des Carmes vient à Avila, sur les instances du roi Philippe II. Il visite la nouvelle fondation de Saint-Joseph. Il est émerveillé. Il accorde à la révérende mère Thérèse de Jésus, c'est écrit dans les vieux textes, faculté et pouvoir de fonder dans toute la Castille, la vieille et la nouvelle, des monastères de religieuses comme celui de Saint-Joseph. Alors il l'autorise aussi à fonder des couvents d'hommes, oui, voués à l'observance de la règle primitive du Carmel. Et pour Thérèse, Le temps des fondations est venu. C'est toute une tâche. Pendant près de 15 ans, Thérèse va sillonner les routes de l'Espagne, de la Castille à l'Andalousie. Par les froids les plus rigoureux, parce que c'est froid parfois dans ces coins-là. Puis, il fait très chaud si les chaleurs sont torrides. On pourrait dire que c'est comme ici, à Montréal. Et pour faire surgir 15 monastères qu'elle appelle joliment... Comment? Les Colombiers de la Vierge. Elle a des goûts poétiques. Et pendant ses voyages, qui sont souvent très, très inconfortables à l'époque, hein, on voyage pas... dans des belles voitures, c'est très dur les voyages à l'époque. Elle est enfermée avec ses filles dans de lourds chariots. Vous savez, des chariots avec des roues, là, très durs, puis ça cahote sur des roues, il y a des trous. Elle est escortée d'un chapelain qui, lui, est à dos de mulet. Pauvre prêtre. Ces expéditions, qui sont harassantes, mettent à dure épreuve sa santé, qui n'a jamais été bien solide. Mais elle n'en perd pas pour autant sa bonne humeur. Non, elle est toujours un peu moqueuse et taquine. Chaque nouvelle fondation exige de multiples démarches. Thérèse doit négocier les autorisations nécessaires et se démener pour trouver une maison. Pour mener à bien sa réforme, elle doit traiter avec les grands de ce monde, des prélats, des riches et des pauvres, dont chacun a ses exigences. À chacun, Thérèse tient le langage qui convient. Tantôt rude, tantôt tempéré de diplomatie. C'est une femme avisée. Thérèse d'Avila, elle sait s'adapter aux gens, puis aux circonstances. Elle sait dire à chacun les mots qu'il faut, sans jamais blesser, heureusement. Mais Thérèse d'Avila doit aussi réformer le Carmel masculin, ça lui a été demandé. Un soir, à Medina del Campo, elle rencontre qui? Jean de la Croix. Le grand saint Jean de la Croix. L'un des plus grands saints de toute l'histoire de l'Église, qui vit en même temps qu'elle, c'est fantastique. Et c'est l'un de ses compagnons qu'elle a, qui est avec lui, qui l'enthousiasme aussi. Tous deux vont fonder, à Duruelo, le premier couvent de Carmes déchaussés. Il va être suivi de beaucoup d'autres. Thérèse, qui est fondatrice et réformatrice, est en but d'être toutes sortes de difficultés. À un certain moment, elle croit que toute son œuvre va être anéantie. Parce que le nonce, l'ambassadeur du pape, les supérieurs religieux, les autorités civiles, se dressent finalement contre elle. Thérèse est contrainte à interrompre ses fondations. Pourquoi? Parce qu'on la trouve trop étroite d'esprit. Dans ces carmels, il y a le silence. On parle pas, on jase pas. Toutes les sœurs sont pas rendues au parloir, comme dans l'autre grand monastère. On pense que une certaine aisance, une certaine facilité de vie religieuse, c'est normal. Elle, non, elle n'aime pas ça. Elle est déchirée entre l'obéissance à ses supérieurs puis la voix intérieure qui l'invite à poursuivre. Et finalement, elle pourra réaliser, avant sa mort, son vœu le plus cher, l'établissement en Espagne d'une province séparée de Carmes Deschaux, comme on les appelle. Ils portent des sandales. Deschaux. 16 monastères de carmélites, 14 couvents de Carmes réformés, au total 200 moniales et 300 religieux. C'est le bilan des fondations au soir de la vie de Thérèse, une Thérèse épuisée, qui se nomme elle-même la pauvre vieille. Et ce désir de voir le Seigneur, déjà exprimé dans son enfance, hein, lors de sa vie, que vous vous souvenez, vers le pays des musulmans, des morts, M-A-U-R-E-S, je le spécifie pour ceux qui s'imaginent que c'est mort, M-O-R-T-S, non, c'est M-A-U-R-E-S. Alors, ça devient de plus en plus pressant, puis à Albe de Tormes, ou de Tormes, en 1582, la Thérèse, qui voici plusieurs années s'est cassé un bras, puis elle souffre depuis longtemps d'une maladie de cœur, de rhumatisme, puis sans doute aussi de tuberculose, elle tombe une fois de plus gravement malade, et cette fois, elle sent que sa mort est proche. Et c'est très beau ce qu'elle dit. Vous tous qui approchez de la mort, qui m'écoutez, on approche tous de la mort, hein. C'est pas 30 ans qui nous séparent de la mort, qui est une longue distance. C'est tout près. Nous sommes tous tout près de la mort. Alors faisons pour chacun de nous cette prière. La vie est courte. Il est temps de nous voir, mon Seigneur. Il est temps de nous mettre en route. C'est simple, mais que c'est beau. Hein? 2 jours plus tard, le 4 octobre, celle qu'on a appelée la Dame Errante, s'apprête pour son dernier voyage, et après avoir répété à plusieurs reprises, « Seigneur, Je suis fille de l'Église. Que c'est beau, hein? Avez-vous déjà dit ça? Je suis fils de l'Église. Pas de l'Église administrative avec tous ses bureaux puis toutes ces choses. Bon, il y a des gens qui se sacrifient pour administrer l'Église, d'accord. L'Église, c'est l'Église des saints. C'est l'Église de tous ces gens qui se donnent, qui sont pleins de cet amour dont je vous ai parlé longuement hier. Cet amour que Dieu dépose dans nos cœurs. Cet Esprit Saint qui souffle en nous. C'est ça l'Église. Le reste, ce sont des appareils, ce sont des choses. Et nous sommes tous des pécheurs, puis nous marchons tous ensemble autour des saints. Nous nous accrochons aux mains des saints pour essayer d'avancer avec eux. Et c'est pour ça qu'il faut les entendre, entendre leur vie. Seigneur, je suis fille de l'Église. Et c'est ainsi qu'elle meurt le sourire aux lèvres. Et qu'elle s'en va rejoindre au-delà, comme elle a dit, des septièmes demeures. Vous savez, elle a écrit les sept demeures, c'est son plus beau livre, les sept demeures. Alors elle va rejoindre celui qu'elle appelait sa majesté, qu'elle aimait tant. Il y a un mot qui fascine Thérèse, enfant, c'est éternel. Lorsqu'elle apprend qu'il signifie pour toujours, 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 hein, et que les martyrs jouissent immédiatement d'un bonheur sans fin auprès de Dieu, c'est pour ça qu'elle décide, avec son frère, là, d'aller se faire couper la tête chez les morts, pour voir Dieu toujours. Le projet échoue, mais jusqu'à sa mort, toujours chez Thérèse, on retrouve cette passion dévorante. Voir Dieu, voir Dieu, voir Dieu. Ce Dieu qu'elle peut voir, Thérèse le recherche sans cesse. Jusqu'à l'âge mûr, nous pouvons tous voir Dieu, mais dans l'au-delà. Mais ici-bas, on peut entrevoir. Alors, à travers des tâtonnements, des infidélités, des tentations, aussi des erreurs, il faut continuer à cheminer. Il faut faire comme elle, il faut pas se décourager. Heureusement, c'est une femme de caractère, elle. Elle a du sang noble par sa mère, ça aide, paraît-il. Puis elle a du sang juif par son père, ça doit aider ça aussi. Parce qu'ils ont du caractère. À une époque où les conquistadors découvrent un nouveau monde, plein de richesses, plein de choses fabuleuses. Thérèse soupçonne puis découvre qu'il existe un autre monde, beaucoup plus vaste et plus riche encore, c'est le monde intérieur, à l'intérieur de nous, oui. Pas pour se gratter l'intérieur, non, pour y trouver la Trinité. Et de 30 à 40 ans, elle en cherche le chemin de ce monde intérieur. Elle a une détermination, Thérèse prie pour prier. Puis après s'être initiée à l'oraison, là, elle y passe chaque jour de longues heures. Elle vit dans une grande austérité, puis elle s'efforce de renoncer à tout ce qui n'est pas Dieu. C'est pas facile. C'est tout un combat. Le Dieu qui se manifeste à Thérèse n'est pas un Dieu sans visage, c'est le Seigneur, le Christ. Nous avons même aujourd'hui, au XXe siècle, sa sainte face. La véritable photo de Dieu, du Christ. C'est lui que Thérèse recherchait passionnément dans l'oraison. Elle fait l'expérience de sa présence. Une présence qui, comme le feu, la dévore et la délivre d'elle-même et de son amour propre. Au point qu'elle en perd la notion du temps et de l'espace, Sainte Thérèse voit le Christ. Oh non, avec ses yeux, certainement pas. Mais dans des intuitions qu'on pourrait dire fulgurantes, pour utiliser un mot qui est cher à l'un de nos meilleurs écrivains au Québec et qui écrit ce très beau livre sur Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est à travers des illuminations transfigurantes, comme seuls en ont les grands mystiques. Ne cherchez pas ça, mais si ça vous est donné, taisez-vous. Gardez ça pour vous, comme un secret, sauf avec votre directeur. C'est vers 1560 que cette présence s'est imposée à elle. Le Christ lui rend visite souvent. Il ne la quitte pas du regard. Il lui parle, il l'instruit, il la réprimande, il la console. Ça va être comme ça de 1560 à 1572. Elle a écrit d'ailleurs à ce sujet ce qui est d'une importance capitale, c'est d'avoir une détermination absolue et inébranlable, de ne s'arrêter point quand qu'on ait atteint la source, avec un S majuscule. Quoi qu'il arrive, ou puisse survenir, quoi qu'il puisse en coûter, quelques murmures dont on soit l'objet, qu'on doive arriver au terme ou mourir en chemin, manquer de cœur même au milieu de l'épreuve, quand le monde enfin devrait s'effondrer. Il faut continuer. Et vers 1572, bien, la vie spirituelle de Thérèse se transforme. Au lieu de lui manifester sa présence par de fréquentes visites, le Seigneur lui donne la conscience quasi permanente de sa présence en elle. Il est là. Il est là. Distinct d'elle, mais profondément uni à elle, au point qu'elle n'agit plus qu'en lui et pour lui. Dans un très beau livre paru récemment qui s'intitule « Le florilège de la spiritualité chrétienne », paru aux éditions du Cerf, on a des textes de toutes sortes d'écrivains chrétiens, et le 66e texte est de Thérèse d'Avila. Un jour que j'assistais aux heures avec la communauté, j'entrai soudain en recueillement et mon âme me fut représentée sous la forme d'un clair miroir. Revers, côté, haut, bas, tout est illuminé. Au centre apparaissait Jésus-Christ, notre Seigneur, comme il se montre à moi d'ordinaire. Dans toutes les parties de mon âme, je le voyais réfléchi comme en un miroir, et en même temps, de quelle manière, je ne saurais le dire, ce miroir s'imprimait tout entier en notre Seigneur par une communication pleine d'amour et impossible à rendre. Ce que je sais très bien, c'est que cette vision m'apporte un très grand profit toutes les fois que j'y songe, spécialement après la communion. Il me fut montré comment, lorsque l'âme est en état de péché mortel, ce miroir se couvre d'un épais brouillard et devient extrêmement noir, en sorte que notre Seigneur ne peut plus y apparaître ni s'y laisser voir, bien qu'il soit toujours présent en tant que donnant l'être. S'agit-il des hérétiques, le miroir est comme brisé, ce qui est bien pire que d'être simplement obscurci. Il y a bien de la différence entre voir ces choses et les rapporter, car il est extrêmement difficile d'en donner l'idée. L'utilité que j'en tirai fut immense. Mais profonde est ma douleur à la pensée que par mes fautes j'ai tant de fois obscurci mon âme, me privant par là de la vision d'un tel maître. Cette vision me semble pouvoir aider, écoutez bien ça, cette vision me semble pouvoir aider les personnes qui s'exercent au recueillement à se représenter notre Seigneur au plus intime de leur âme. Le regarder ainsi attache davantage à lui et est plus fructueux que de le considérer hors de soi, ainsi que je l'ai déjà dit à d'autres fois. Plusieurs livres sur le raison qui nous apprennent où nous devons chercher Dieu parlent de même. Saint Augustin en particulier nous assure qu'après l'avoir cherché dans les places publiques et au milieu des plaisirs, il ne l'avait trouvé nulle part comme au-dedans de lui. Évidemment, il n'y a pas de meilleure méthode. Il n'est plus besoin de monter jusqu'au ciel. Entrons donc en nous-mêmes. N'allons pas plus loin, car cela fatigue l'esprit, distrait l'âme et porte moins de fruits. Ah, que je l'aime, Thérèse d'Avila, qu'elle est formidable. Or, pour celui qu'elle appelle si souvent sa majesté, bien Thérèse d'Avila a la même passion amoureuse que les héros des romans qu'elle aimait tant lire dans sa jeunesse sous la conduite de sa mère, les romans d'amour, les romans de chevalerie. Et comme Marie-Madeleine, dont je vais vous parler très bientôt, elle est follement éprise de son Seigneur. Elle brûle du désir de le retrouver. Sachant que c'est impossible à moins de mourir, elle souhaite donc la mort. Jusqu'au jour où Jésus lui dit, « Désormais, oui, désormais, tu seras mon épouse. » Alors, cette amoureuse éperdue qui n'endure pas qu'on puisse aimer Dieu plus qu'elle-même, fait place à la compagne apaisée, sûre de son union. Elle est prête à collaborer avec son époux au salut du monde. Et c'est là que, dorénavant, rien va la troubler. Rien. Toute jeune, elle avait eu l'intuition que tout n'est rien, comme je vous ai dit tout à l'heure, que le monde et la vie passent, hein? Que tout est vanité finalement. Tout ce que nous possédons, même des collections, des choses, des beaux meubles, des choses, ce n'est rien. Nous n'aurons plus rien dans quelques jours, quelques milliers de jours. pour les plus jeunes, quelques dizaines de milliers de jours. Maintenant, elle sait que Dieu est tout et que Dieu seul suffit. Le contenter, c'est-à-dire lui plaire et accomplir sa volonté en le servant, telle sera désormais l'existence de Thérèse. Thérèse n'est pas seulement une contemplative, c'est aussi une femme d'action. Quand elle en aura reçu la mission, elle parcourra l'Espagne, comme on sait, en tous sens, elle va affronter mille difficultés. Elle va fonder. Elle se lève très tôt, à 5 heures le matin. Elle veille fréquemment tard le soir pour écrire ou pour prier. Thérèse lutte pied à pied, malgré sa mauvaise santé. Et c'est toujours au fond de son cœur ce « je veux voir Dieu ». Thérèse brûle de porter l'amour partout dans le monde. Et sa visée, on pourrait dire apostolique, là, va bien au-delà des couvents qu'elle a fondés en Espagne. Lorsqu'elle meurt en 1582, 200 carmélites, je vous l'ai dit, 300 carmes sont prêts à passer la mer pour se rendre en mission. Ou, ce qui n'est pas plus facile, à franchir les Pyrénées, sépare l'Espagne de la France, pour entrer justement dans une France ennemie encore en proie aux guerres de religion dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, plusieurs siècles plus tard, une autre Thérèse, on le sait, à Lisieux, va tenir le même langage qu'elle. Au cœur de l'Église, « Je serai l'amour », nous a dit Thérèse de Lisieux. « Ainsi, je serai tout. » Quand on est dans l'amour de Dieu, baigné par l'amour de Dieu, on est tout. Tout ce que Dieu veut, comme je vous ai enseigné hier. J'espère que vous avez compris cette émission hier. Deux docteurs de l'Église. Il y a un mot qui revient sans cesse dans les propos puis les écrits de Thérèse d'Avila, c'est l'oraison. L'oraison, l'oraison. Ça signifie tout simplement la prière en latin. Mais quelle prière? Chez Thérèse et les contemplatifs, ça désigne un chemin par excellence de l'union à Dieu. Une extraordinaire aventure que Thérèse a vécue. Faire oraison au point de départ, c'est peut-être prier à l'aide de paroles, ou bien mentalement, sans paroles, ou encore méditer un geste ou une parole de la vie du Christ. Et ce temps fort de la relation personnelle avec le Seigneur exige quoi? Ça exige, ça, il faut bien se le dire, une rupture radicale avec le milieu ambiant dans lequel on est, là, afin de fixer notre attention sur Dieu. Il est nécessaire donc de rechercher la solitude dans un coin de notre appartement, de notre maison, puis de faire abstraction de nos soucis, de nos préoccupations. C'est le but des Carmels ou la tradition du désert. C'est pas une austérité voulue pour elle-même, pour faire pénitence, mais un climat. C'est un climat destiné à favoriser l'oraison. Allez dans le Carmel de Montréal. Voyez. Voyez. Essayez de vivre ça chez vous. Thérèse n'a pas étudié la psychologie. On est étonné quand on la lit, en la lisant, de voir à quel point connaît bien le cœur et l'esprit humain. Et pour ceux qui ont des doutes à son sujet, je vous dirai que Karl Stern, un juif incroyant qui voulait prouver que Thérèse d'Avila était une malade mentale, a lu attentivement ses œuvres, toutes ses œuvres, les a analysées sur le plan psychanalytique, c'est un grand psychiatre. Il s'est converti ici à Montréal même. Il s'est fait baptiser chez les franciscains, de ce qu'on appelait le boulevard Dorchester dans le temps, le boulevard René Lévesque. Thérèse d'Avila a converti beaucoup de monde à la vraie pensée de Dieu. Elle dit d'ailleurs, là où est Dieu, là est le ciel. Oui, c'est une vérité indubitable, dit-elle, que là où est la divine majesté, là se trouve toute la gloire. Or, dites-vous bien que Dieu est là, près de vous, en vous, vous êtes en Dieu, nous sommes en Dieu. Nous sommes au ciel, mais nos yeux de chair nous empêchent de le voir.